Mais ce qui est agaçant avec la culture, c'est son côté, vous savez, madame ou monsieur je sais tout, ce petit air arrogant avec lequel elle vous prévient, elle vous alerte mine de rien, elle vous souffle des réponses d'un air sibyllin et se réjouit des mois ou des années plus tard, je vous l'avais bien dit. Ces dernières semaines, face à l'actualité américaine, une petite musique me trottait dans la tête tout le temps. À chaque mention de Charlottesville, de racisme, de suprémacisme blanc ou de Ku Klux Klan, une petite musique comme un murmure qui me soufflait « Make America Great Again » ou quelque chose dans le genre. Le slogan de campagne de Donald Trump, vous vous souvenez, mais d'une voix rocailleuse et rieuse. C'était la voix de la romancière américaine Toni Morrison que je recevais à ce micro l'année dernière, la veille de l'élection du président, et qui proposait de ce slogan une lecture singulière. Elle disait ce qu'il faut entendre dans cette phrase, c'est « Make America White Again ». C'est pas rendre sa grandeur, mais rendre sa blancheur à l'Amérique. C'est un slogan raciste. C'est ce qu'elle disait. Et je l'entends encore dérouler cette interprétation qui n'a cessé de se vérifier à mesure que la parole raciste s'est décomplexée. Je me suis promis cette rentrée, du coup, de mieux encore les écouter, mes invités, pour éviter qu'ils ne reviennent me hanter, vous savez, qu'ils me rattrapent tout l'été et me murmurent à l'oreille quelque chose qui s'approche de la vérité.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang, quatrième saison que je vous promets plus curieuse que jamais. Quel plaisir de vous retrouver et quelles histoires nous raconte mon invité d'aujourd'hui. Tiens, lui qui dans son œuvre romanesque n'a jamais cessé d'interroger la manière dont grandes et petites histoires se fabriquent, s'écrivent, se lisent. Son nouveau livre « Ils vont tuer Robert Kennedy » vient de sortir. C'est le destin d'un homme persuadé que la disparition de ses parents est liée à l'assassinat du frère du président en 68 et qui explore les dessous de l'Amérique de ces années-là sur fond de services secrets, de complot et de paranoïa. Bonjour Marc Duguin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Sur l'Amérique, sur aujourd'hui, sur l'actualité de cet été, on vous avait prévenu, vous ? Est-ce que la littérature, la culture vous avait prévenu ?
Je crois qu'elle m'avait prévenu au sens où moi je travaille là-dessus depuis pratiquement l'âge de 17 ans. Et j'en ai 60 maintenant. Donc ça fait quand même un bail. Et je pense que le grand virage qui nous a amené à Trump, c'est l'assassinat des Kennedy. C'est-à-dire, c'est le moment où l'Amérique décide que le pacifisme, la lutte pour les droits civiques, en gros, ça peut être une forme de vitrine, mais pas plus.
Quelle page, quel épisode de l'histoire des États-Unis est en train de s'écrire quand même pour vous, aujourd'hui, précisément ?
Ben, c'est une page étonnante. Je ne sais pas si on a assez de recul, mais vous savez, j'ai rencontré quelqu'un cet été dont je ne peux pas dire le nom, qui est à un niveau assez élevé dans l'administration américaine, et qui m'a dit ce que vous ne réalisez pas, c'est à quel point Trump est cinglé. C'est-à-dire que pour la première fois, avec Obama, on a eu un président noir, ça c'était formidable. Mais là, pour la première fois, on a un président cinglé aux États-Unis, mais vraiment cinglé. Et c'est intéressant, on va voir comment la machine administrative, politique américaine va gérer. Mais je pense que c'est quelqu'un de profondément déstabilisé sur le plan psychologique.
Alors vous faites un lien, c'est intéressant, avec l'Amérique des années 60. Quelle page s'est écrite précisément avec l'assassinat des Kennedy dans les années 60 ?
Ben, si vous voulez, dans les années 60, la grande idée de Kennedy, c'est le pacifisme. C'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir, les militaires lui disent « on a une avance technologique qui est relativement importante sur les Russes, c'est le moment de faire la guerre ». Et Kennedy les traite de cinglés. Là, c'est la différence. Maintenant, on traite le président de cinglé, là, c'est le président qui traite les militaires de cinglés. Et qui leur dit « vous êtes totalement cinglé, donc moi je n'irai pas dans cette voie-là ». Et là, à ce moment-là, je pense que déjà son arrêt de mort est signé. Et ensuite, il y a son assassinat, qui est quand même un coup d'État de l'extrême droite. On dira ce qu'on veut, c'est un coup d'État de la CIA, des anticastristes, de la mafia, enfin de tous les gens qui représentent ce système de l'avidité qui caractérise les États-Unis. Et ensuite, ça suffit pas. C'est-à-dire que JFK est assassiné, mais quand son frère, qui est encore, à mon avis, après réflexion plus à gauche que lui, décide d'y aller, là, on le laisse même pas arriver jusqu'à l'élection et on l'assassine avant.
On dira ce qu'on veut, dites-vous, Marc Duguin. C'est intéressant parce que lorsqu'il s'agit d'analyser des faits historiques, d'apporter des explications à des événements passés, il y a toujours plusieurs versions qui se confrontent. Une version officielle et puis celle qu'on pourrait nous cacher. Qu'est-ce qui, selon vous, nous a été caché sur l'assassinat de Robert Kennedy, le frère de l'ancien président ? Est-ce que votre livre traite beaucoup de ça ?
Oui, traite ça, c'est un roman, hein. C'est pas non plus. Mais évidemment, il y a une partie enquête qui est très forte parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine depuis mon adolescence, et je pense que Robert Kennedy, ce qui est très très beau finalement et très romanesque dans l'histoire de Robert Kennedy, c'est que dès le moment où il se présente, au moment où Johnson dit bon, j'y vais pas, je suis malade, j'ai des problèmes cardiaques. Johnson qui le détestait, il se détestait d'une façon inouïe. Et dès le moment où il décide d'y aller, il sait qu'il va mourir. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce destin, parce qu'en même temps, il sait que s'il se présente, ils vont le tuer. Et il sait que s'il ne se présente pas, il mourra de lui-même.
Mais par
dépression. En fait.
Qu'est-ce qu'on nous a caché, Marc Guillain ?
Ce qu'on nous a caché, c'est évidemment les circonstances dans lesquelles. Robert Kennedy a été tué, c'est-à-dire que ça s'est passé, vous savez, à Los Angeles. Il venait de gagner la primaire en juin 68, la primaire de Californie qui était fondamentale, qui l'emmenait directement au pouvoir quasiment. Enfin, il y avait encore une primaire derrière décisive et puis c'était fini. Il était du coup le candidat des démocrates et assurément le président, puisqu'on est en 68 et que jamais la contre-culture n'a été aussi forte et aussi porteuse sur le plan politique. Et à ce moment-là, les Américains qui ont beaucoup travaillé sur la question de l'élimination, en particulier la CIA qui a beaucoup travaillé sur la question de l'élimination de ses ennemis politiques, et les Kennedy en font partie, décident qu'il faut en finir avec lui. Et donc, ils vont faire un petit peu comme pour l'assassinat de John, c'est-à-dire qu'il va y avoir le leurre, the patsy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il y a un leurre qui est devant Kennedy, qui tire, mais qui tire un peu n'importe comment, avec une arme finalement pas très dangereuse, puisque c'est un 22. Et puis derrière, il y a quelqu'un qui lui met la balle décisive derrière la tête, sachant que Siran a été probablement sous hypnose.
Nous y voilà, il faut être fou. Pour vouloir dire la vérité, vous la connaissez cette phrase, c'est ce que dit votre personnage à la fin du livre. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase ?
Ben, qu'on nous renvoie toujours, si vous voulez, dès le moment où vous contestez la version officielle de l'histoire, selon le degré, je dirais, de répression dans lequel vous êtes et dans le pays dans lequel vous êtes, on vous renvoie tout de suite à une pathologie psychologique.
Il faut être fou pour être écrivain.
C'est-à-dire qu'il faut être cinglé.
Du coup, Marc Guillain.
Ah, je pense que ça aide un peu, mais c'est pas suffisant.
Et l'écrivain, pour vous, est-ce qu'il se doit de dire la vérité ?
Ah ben, s'il la connaît. Vous savez, la vérité, c'est quand même une grosse entreprise. Il faut pas se leurrer. C'est une grosse entreprise, c'est une entreprise dangereuse. J'en ai fait les frais avec mon enquête sur MH370, vous savez, l'avion qui a disparu. Et quand on veut aller vers la vérité, il y a quelque chose d'assez éblouissant. Et ça peut être dangereux, effectivement.
Parce que c'est là-dessus que vous travaillez, il faut le dire, hein, toute votre œuvre qui travaille sur les mécanismes invisibles du pouvoir, j'ai l'impression qu'elle repose sur la recherche de la vérité. Mais est-ce que la vérité existe seulement en littérature, Marc Guillain ?
Je pense qu'il y a une certaine vérité. Si vous voulez, chaque écrivain trace un chemin dans la complexité et dans la compréhension de la complexité humaine. Alors après, est-ce que ça amène à la vérité ? En tout cas, la question n'est pas d'aller à la vérité, c'est de s'en rapprocher. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre, par exemple, pourquoi l'Amérique est telle qu'elle est, et que par l'assassinat des deux Kennedy, elle a raté une marche. Et qu'ensuite, elle n'a pas été capable de se regarder, parce que maintenant, ça fait 50 ans. Et que depuis 50 ans, l'Amérique se cache à elle-même une vérité qui l'a conduit d'ailleurs à des erreurs colossales, à continuer dans cette voie qui est la voie du mensonge, en particulier en Irak. Et si aujourd'hui, on est face à Daesh, je crois qu'on le doit beaucoup aux Américains et à leur politique en Irak.
Celle qui se donne des airs de vérité dans cette émission, vous la connaissez, Marc Guillain ? Non ? C'est la culture, évidemment. La culture est, qui revient de vacances, la culture et son actualité insolente. Vipérine volontiers complotiste, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 28 août ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous attendais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Champagne, whisky ? Cognac ?
Lundi noir, 7e art, on vient d'apprendre que l'actrice française mythique Mireille Darc s'est éteinte à l'âge de 79 ans, icône du cinéma des années 70, égérie du réalisateur Georges Lautner, avec lequel elle tournera pas moins de 13 films. Elle reste surtout comme l'inoubliable interprète de Christine, aux côtés de Pierre Richard dans Le Grand Blond avec Une chaussure noire, puis Le retour du Grand Blond. Pendant près de 12 ans, Mireille Darc fut aussi la compagne à la scène, comme à la ville, d'Alain Delon. R.I.P. Madame Darc. La mare et la manière. Cette nuit, Kendrick Lamar a survolé la cérémonie des MTV Video Music Awards en remportant 6 récompenses, dont celle de la meilleure vidéo de l'année pour son morceau Humble. De cette soirée très politique, on retiendra aussi le discours poignant de la mère de la jeune femme tuée à Charlottesville, l'annonce de la création d'une fondation contre le racisme et la remise du prix du meilleur combat contre le système à 6 lauréats ex aequo. Respect.
Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre.
Elle est où, cette vache ?
L'honneur est dans le pré. Pour Petit Paysan, hier, le premier long métrage d'Hubert Charuel a raflé 3 récompenses en clôture du Festival du film francophone d'Angoulême. Le thriller agricole qui avait fait sensation lors de la semaine de la critique à Cannes repart ainsi avec le prestigieux Valois de Diamant, prix du meilleur acteur aussi pour Swan Arlo et celui de la meilleure musique. C'est chic. Oh, we choose. Heure de gloire, le groupe Heure a livré l'un des concerts les plus poignants de rock en scène, le premier depuis le décès de Simon Carpentier, moitié du duo Rennais, qu'on va appeler Simon pour l'occasion, disparu le 13 août dernier, du festival francilien qui s'est achevé hier soir sur un joli succès, près de 110 000 spectateurs en 3 jours. On se souviendra aussi du set envoûtant de la rugueuse PJ Harvey, de la performance musclée de Cypress Hill et du live réjouissant de Marc de Marco. Merci les cocos. Marc Duguin, invité de Boomerang pour cette rentrée sous le signe, on le disait, de la curiosité. L'actualité de la culture, c'est aussi lui. Il n'aura échappé à personne que c'est la rentrée littéraire que vous publiez, Marc. Ils vont tuer Robert Kennedy. Alors vous dites à qui veut l'entendre que les Kennedy, c'est votre marotte. Moi, ma question, c'est pourquoi Robert ? Bobby, pour les intimes dont nous sommes. Qu'est-ce qui en fait pour vous un bon personnage sur le plan romanesque ? Qu'est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait qu'il savait qu'il allait mourir, forcément mourir ?
Il y a quelque chose de très touchant dans ce personnage qui tient, je pense, à une forme de maniaco-dépressivité. C'est-à-dire que c'est le plus jeune des trois grands, hein, puisque ses deux frères sont morts avant lui. Et il y a quelque chose un peu de carabin, il se prend un peu les pieds dans le tapis, un peu avec la religion catholique. Il a ce côté très 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 catho. Il fait 11 gosses à sa femme. En même temps, il a quand même des maîtresses, beaucoup moins que son frère, qui lui en avait des quantités industrielles. Et il a une histoire d'amour, une vraie, avec la femme de son frère, avec Jackie Kennedy, dès le moment où elle est morte, parce que tout Kennedy succède à un autre Kennedy, ça c'est la règle. Et en même temps, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a de vraies angoisses métaphysiques, c'est quelqu'un qui va, par exemple, passer du catholicisme à Camus.
Oui.
Ce qui est quand même assez extraordinaire pour un Américain d'arriver à cette transition, quand on connaît le poids de la religion chez les Américains. Et il y a une vraie réflexion philosophique derrière. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez désespéré dans ce côté, cette obligation de réussite qu'ont les enfants Kennedy. Cette obligation qui n'est pas une réussite facile. C'est pas simplement d'avoir un prix littéraire. C'est quand même d'être le premier. D'être le premier des États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose et je pense que chez Robert Kennedy, il y a quelque chose de très touchant dans la façon qu'il a d'avancer. En même temps, il a un côté un peu aussi un peu désagréable, un peu fils de riche, et il y va. Et ce qui est très intéressant, c'est le retournement de ses convictions. Au départ, ses convictions ne sont que d'appuyer son frère, et ensuite il commence à avoir des convictions politiques sur les droits civiques, sur le droit des Noirs.
Personnage qui s'émancipe. Il se trouve quand même, Marc Duguin, que c'est pas le personnage principal de votre roman. Il y a votre narrateur aussi, dont le nom rappelle fortement le vôtre, et dont les parents sont morts dans des circonstances mystérieuses qui seraient liées à l'assassinat de Bobby Kennedy. Est-ce que c'est vrai ce mensonge ?
Forcément que non.
Forcément que c'est un mensonge.
Forcément que non.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de croiser ces deux histoires ?
Mais parce que c'est deux fictions. Parce que dans ces deux histoires, il y a beaucoup de choses qui à la fois qui me ressemblent et qui m'appartiennent. Il y en a beaucoup qui sont vraies, qui tiennent au travail de certains membres de ma famille dans les services secrets, en particulier dans le renseignement anglais. Ensuite sur les liens avec l'Irlande, sur les liens avec la Pologne.
Et c'est passionnant.
Et tout ça est vrai.
Mais la question que je me pose, c'est, vous aviez suffisamment de matière pour faire deux romans en réalité. Pourquoi les avoir mis ensemble? Est-ce que c'est pas parce que vous n'arrivez pas à écrire sur vous?
Non, je crois pas, parce que je finirai par écrire sur moi.
Oh. Une autofiction?
Peut-être pas tout de suite, mais j'ai encore un peu de temps.
Une autobiographie, Marc Duguin?
Non, mais j'y arriverai un jour.
J'ai l'impression, en fait.
Vous verrez, vous serez étonné.
J'ai l'impression qu'à travers ce dispositif, en fait, où s'entremêlent, la petite et la grande histoire, ce que vous nous racontez, c'est le désir, presque enfantin, de se rêver comme acteur d'un mythe, de se transformer en héros, en fait.
Oui, mais je pense que c'est le problème du personnage. C'est ça qui est intéressant. Mais ce personnage qui n'est pas vraiment moi non plus. C'est bien pour ça que j'ai donné quasiment mon nom. C'est parce que c'est pas moi. Si ça avait été moi, j'aurais pas donné mon nom. Vous savez comment c'est en littérature, vous savez comment ça marche.
Cela dit, il est pas loin le nom. Vous l'irlandisez un petit peu.
Oui, mais parce que c'est les origines.
Au Duguin.
C'est les origines, mais... Non, moi, je c'est vrai que je n'imagine pas faire un livre sur moi. En même temps, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le fait de croiser des destins, des expériences fortes. Parce que celles de ma famille ont été extrêmement fortes. Et toujours cette constance, je dirais, qu'il y a dans mon travail, qui est de ramener un individu dans un cadre plus large qui est celui de la grande histoire. Et comment il y interagit et comment il en est à la fois victime et quelque part, s'il le peut, acteur.
Quel genre de héros est-ce que vous seriez, vous ?
Moi, je serais, si je pouvais, un des deux journalistes des hommes du président.
Moi, je serais Kurt Cobain, qui reprend Bowie en 1994, The Man Who Sold the World. C'est la rentrée. Ça, c'est du solo, c'est du héros, c'est la rentrée. Vous êtes sur France Inter avec Marc Duguin. Vous écoutez Boomerang. We passed upon the stairs, spoken walls and well. Although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of a man who sold.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il a la rudesse mi-bûcheronne, mi-oursonne de l'intellectuel homme des bois, vous savez. Et je vais vous dire, avec sa barbe hésitante, son cheveu farouche, son air un brin taciturne, il respire la sagesse, la bonté, l'esprit pratique, le genre à toujours avoir un couteau suisse dans sa poche, à savoir allumer un feu avec un galet et une brindille, ou à se repérer dans la nuit à la seule lueur de l'étoile polaire. Polo noir, charismatique, jean foncé, hypnotisant, chaussures en daim de gourou baroudeur. C'est pas un écrivain, c'est un guide spirituel, Marc Duguin, invité de Boomerang ce matin pour son nouveau roman « Ils vont tuer Robert Kennedy », un livre qui apparaît, alors c'est intéressant par moments, comme une sorte de thèse, très documentée sur les coulisses du pouvoir américain. Quand on écrit un roman comme celui-ci, comment est-ce qu'on fait pour pas se noyer dans la documentation, dans les analyses, dans les données, pour pas perdre le roman, en fait, de vue?
C'est la plus grande complexité, parce que le travail de documentation au départ, il est colossal. Parce que j'ai mis très très longtemps à écrire ce livre. Ça a vraiment été une entreprise importante pour moi. Et c'est là où j'ai effectivement conscience de ce risque dont vous parlez. C'est-à-dire qu'à tout moment, je me dis, il ne faut pas que l'histoire, la grande histoire, vienne écraser l'histoire romanesque elle-même. Donc c'est un dosage, mais qui se fait. Enfin, très très honnêtement, très naturellement pour moi.
D'autant, il faut le dire, c'est qu'il y a cette dimension complètement obsessionnelle de votre intérêt pour Kennedy que vous partagez avec votre personnage. En fin de compte, c'est de ça que parle le livre, non? Du pouvoir des obsessions, Marc.
Oui, parce que l'obsession, c'est quand même un moteur formidable.
Est-ce que c'est dangereux aussi?
Je pense que c'est dangereux et en même temps c'est salvateur, parce que vous savez, vous connaissez la grande thèse en psychanalyse, c'est que la névrose obsessionnelle, c'est souvent le dernier rempart contre la dépression. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très enthousiasmant dans l'obsession.
C'est ce qui sauve votre personnage, non?
C'est ce qui sauve ce personnage, parce que ce personnage a perdu ses deux parents très jeune. Et donc, c'est cette obsession qui le tient. Et finalement, si lui-même ne tombe pas dans la folie, alors qu'on va comprendre que ça pourrait être le cas.
Totalement.
C'est parce qu'il a cette obsession et qu'il relie cette obsession à son destin tragique personnel.
Quelles obsessions est-ce que vous avez, vous, Marc Duguin?
Ben, j'ai celle-là, justement, voyez-vous.
C'est la seule?
Oui, enfin, obsession intellectuelle. Non, je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'obsessions qui puissent cohabiter. En général, on en a une. Alors celle-là est très. Bah, c'est moi, mon obsession, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que on me vend l'histoire avec un grand H comme une fable. Et qu'il y a quelque chose qui m'intéresse derrière, qui est de ramener ça, non pas à la vérité, mais à plus de réalité. Et je trouve que ce travail-là, qui est celui de certains journalistes, qui est le mien, sous forme romanesque, à travers la fiction, ça c'est un travail passionnant et probablement assez obsessionnel.
Alors justement, à quel moment intervient la littérature? Pourquoi ce prisme de la littérature, de la fiction, là, en l'occurrence?
Parce que la littérature, s'agissant de reconstituer l'histoire, elle a une force que n'a pas l'histoire en tant que science. Pour une raison simple, c'est que les historiens font un travail fantastique, mais qui ne s'adresse pas à la même partie du cerveau. Et qu'en réalité, vous ne pouvez, à mon avis, comprendre ce qu'a été la guerre de 14 qu'à partir des romans qui ont été écrits sur la guerre de 14. Comme je pense que la réalité de l'assassinat de Kennedy, ça vient des différents romans qui ont été écrits autour de l'assassinat de Kennedy. Parce que les simples thèses assez arides universitaires sont extrêmement nécessaires, et sont nécessaires pour nous aussi, parce qu'on s'appuie là-dessus. Mais ensuite, c'est la remise en perspective humaine au niveau de l'âme. C'est ce que l'histoire, en tant que science, n'arrive pas à pénétrer, c'est l'âme. Et c'est cette partie du cerveau sensible qui fait qu'on comprend et on est vraiment touché par une, par une période historique.
Moi, je trouve que c'est ce qui est passionnant de votre livre, hein, qui est traversé par des questions artistiques, par des questions littéraires. On parlait notamment tout à l'heure de la tension entre le mensonge et la vérité, la fiction et la réalité. Dans « Ils vont tuer Robert Kennedy », vous nous dites quelque chose de ce que c'est qu'un écrivain. Et j'aimerais lire un extrait, si vous voulez bien.
Bien
sûr. Court extrait. Et je lui avouais qu'en dehors de mes travaux universitaires, j'avais toujours désiré écrire. Mais j'en avais pas eu la force jusqu'ici. J'avais l'intention de m'y atteler le jour où je serais certain de n'avoir aucune ambition littéraire autre que de créer un moment d'intimité avec un inconnu auquel je serais incapable de m'adresser en temps normal. Le besoin d'amour, de reconnaissance, de postérité était selon elle le triptyque fatal à l'expérience littéraire. Qu'est-ce qui vous a donné la force d'écrire, vous, Marc Duguin ?
Moi, j'ai été poussé par des forces mystérieuses.
Oh non, pas les forces mystérieuses, Marc.
Non, des forces mystérieuses. Des forces qui sont difficiles à analyser. Je pense que c'est un moment c'est une intériorité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture, ça m'est indispensable. C'est-à-dire que j'ai pas l'air comme ça, mais j'écris tout le temps. Voilà, j'ai fait une petite pause là, cet été, mais c'est une nécessité, même si je fais du cinéma à côté, même si j'écris pour d'autres moyens culturels, l'écriture, c'est quelque chose qui est central.
Et le besoin d'amour, de reconnaissance et de postérité, ce triptyque fatal, comme vous dites dans votre livre, ça compte, ça entre en jeu ? Un petit peu.
Un petit peu, forcément, mais pas tant que ça.
Pourquoi c'est un triptyque fatal ?
C'est un triptyque fatal parce que si on va trop profondément là-dedans, je pense qu'on se perd comme écrivain.
La reconnaissance pour vous, elle est arrivée dès la sortie de votre premier roman, La Chambre des Officiers, il y a 19 ans. Qu'est-ce qu'elle permet, la reconnaissance ?
Elle permet d'avoir lecteur. Je crois que ce que je dis dans cette phrase, cette intimité entre deux êtres qui ne se connaissent pas, ça pour moi c'est vraiment le fondement de la littérature. C'est-à-dire c'est ce que je ressens. Ce que j'ai relu par exemple Valérie Grossman cet été, Vieux Destin, et je sens quelque chose avec lui. Il est mort aujourd'hui, mais je sens quelque chose avec lui. Je sens une connivence à la fois intellectuelle, sensible, et ça chaque fois que je lis ça, quand ça marche, ça m'émerveille. Et j'espère avoir ça avec quelques lecteurs.
Merci infiniment, Marc Duguin, d'avoir inauguré cette nouvelle saison de Boomerang, sous le signe, je le rappelle, de la curiosité. Ils vont tuer Robert Kennedy, publié chez Gallimard. Vous le présenterez, je le dis, dans deux semaines au Festival littéraire Livre, dans la boucle dont vous êtes président. Sans oublier votre participation au Monde Festival, c'est important, le 23 septembre prochain. Tout de suite, celle sans qui France Inter ne serait pas France Inter. Hein. La redoutable Sonia De Villers, accompagnée pour cette rentrée de David Pujadas. C'est l'instant M, juste après ça.
Ça se perd, ça se délite. On a changé de satellite. Le froid derrière la fenêtre me pénètre. Et ton visage brumeux qui part au mieux.
Laisse-moi, 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 laisse-moi
Foundation, Burning Peacock sur France Inter. Et c'est l'heure de l'instant M, l'instant média avec Sonia.
Ça va, Augustin?
Je suis content de vous entendre.
Ah,
bonne rentrée,
aussi,
Sonia.
C'est le retour du 9-10. Vous m'avez manqué.
Oh, c'est le retour du 9-10. Oui. 9... Vous avez vu comme je suis à l'heure, 9h39,
incroyable,
c'est formidable.
9h39.
Ça ne sera pas le cas tous les jours, Sonia. Je préfère le dire aux auditeurs.
Même David Pujadas est arrivé à l'heure.
Totalement.
La dernière fois qu'il était venu à France Inter, il était arrivé. Allez. Une seconde avant le micro.
Et c'est pour ces petites anecdotes.
Qu'on les aime.
Est-ce que je vous aime et que j'aime David Pujadas aussi.
Salut Augustin.
Salut, bonne rentrée. Demain.